Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 13e pour cette 9e saison et nous recevons aujourd'hui Hervé Barrault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Hervé Barrault, alors on va donner dans l'ordre presque chronologique, si je puis dire, d'abord maire de Termes, la commune de Termes, dans l'Aude, hein, c'est en pleine Corbière, on va y revenir et vous allez nous expliquer. Vous êtes également conseiller départemental et à ce titre, alors pour le canton évidemment, on s'en doute, mais à ce titre également premier vice-président de l'Assemblée départementale. Et puis vous êtes depuis, alors plus récemment, depuis une année environ, président du PNR Corbière-Fenouillèze. PNR, c'est le parc naturel régional. Et là encore, c'est une instance nouvelle mais importante sur laquelle on va revenir au cours de ces trois parties. Vous êtes également membre du Parti socialiste et c'est très d'actualité. On évoquera également ce qui se passe dans ce parti. Tout d'abord, Hervé Barrault, vous êtes maire donc de Termes. Alors c'est une toute petite commune en plein milieu des Corbières, on peut dire. Et combien d'habitants aujourd'hui?
Il y a, en titre d'habitants permanents, il y a 45 habitants.
Une quarantaine. Et est-ce qu'on a stabilisé ou est-ce que c'est encore un village où les gens s'en vont?
Non, le village est stabilisé en termes d'habitants permanents. Il y a aussi beaucoup de résidences secondaires, donc la population augmente périodiquement, en particulier l'été, mais pas que. Voilà, c'est... Il n'y a pas de régression nouvelle.
Oui, voilà. Donc il y a une stabilité à ce niveau-là. Et alors, cette commune Termes, alors peut-être que certains ne la connaissent pas, mais les historiens, ceux qui s'intéressent à la croisade contre les Albigeois, à l'histoire occitane, savent très bien que c'est enfin, une commune qui a un château, qui avait et qui a toujours un château, et qui a joué un rôle important dans la croisade des Albigeois.
Alors le château de Termes a joué un rôle important pendant la croisade des Albigeois, puisque c'est autour de ce château et pour prendre ce château que Simon de Montfort a tenu le siège le plus long de la croisade contre les Albigeois. Le château de Termes est tombé en 1210. Voilà. Mais Termes a eu un deuxième temps d'importance. C'est lorsqu'il a été intégré à ce qu'on appelle les forteresses de montagne ou les citadelles des vertiges, comme on voudra. A participé avec des châteaux comme Quéribus, Peyre-Pertuse, Aguilar, Puy-Laurent, a participé à la défense de la frontière contre l'Aragon, c'est-à-dire au lendemain de la période cathare, dite cathare, en tout cas de la croisade contre les Albigeois. Le château de Termes a été intégré à cette
à la défense,
de forteresse,
à une ligne de défense,
voilà, qui a permis de garantir la frontière. Et c'est à ce titre qu'avec l'ensemble de ces citadelles et la cité de Carcassonne, le château de Termes est candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc après le rattachement du Languedoc au Royaume de France, eh bien, ça a servi de ces châteaux qui avaient été assaillis et assiégés par Simon de Montfort notamment, sont devenus partie intégrante d'une sorte de ligne Maginot de l'époque.
Tout à fait. C'était une ligne Maginot, oui. On peut dire cela comme ça. C'était un système royal commandé depuis la cité de Carcassonne et qui a permis d'établir pendant 400 ans la frontière là où elle n'est plus aujourd'hui, mais qui séparait donc la France de l'Espagne, enfin ça ne s'appelait pas l'Espagne, enfin du Royaume d'Aragon.
Du Royaume d'Aragon,
à peu près à l'endroit où se situe la limite entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales.
Oui, et encore pas tout à fait, on va y revenir à propos du Fenouillède.
Bon.
Mais c'est vrai que ça date à l'époque du rattachement du Roussillon à la France, oui. C'est là où cette frontière disparaît, puisqu'elle devient interne en quelque sorte.
Tout à fait, c'est au moment du traité des Pyrénées.
Oui, c'est ça, voilà. Au XVIIe siècle, 1653 ou 9.
59,
pour être précis, là, on a tout dit. Alors, Termes aujourd'hui, c'est donc un village qui vit, lorsqu'il y a activité agricole, c'est essentiellement de l'élevage.
Aujourd'hui, c'est devenu de l'élevage. Il y a une activité de plantes aromatiques, mais l'activité agricole avec 40 habitants est assez réduite.
Oui, est assez réduite, assez réduite forcément.
Mais la présence d'élevage permet de maintenir une ouverture dans les milieux et donc d'avoir des espaces non encore totalement boisée.
Oui, et voilà. Et à propos d'aménagement de l'espace, on va y revenir aussi, je le précise pour les auditeurs, puisque c'est des régions et des végétations qui sont très propices aux incendies, et vous, forcément, en tant que responsable départemental, ça vous intéresse au premier degré. Restons un petit moment encore sur Termes. Alors, et sur les lieux, je crois qu'il y a des sources très importantes. On sait plus ou moins qu'il y a beaucoup d'eau sous les Corbières, mais il y a des résurgences et une source importante à Termes.
Oui, il y a effectivement, on est dans une zone karstique, hein, c'est-à-dire un milieu calcaire fracturé, et donc il y a de l'eau dans le sous-sol, c'est connu. De là à savoir si c'est un océan ou pas, c'est une autre problématique. Mais effectivement, à l'aval du village, il y a une source qui permet d'alimenter une trentaine de communes de la région lézignanaise. D'ailleurs, le bouclage va jusqu'à Bizanet, c'est-à-dire pratiquement à Narbonne. C'est une source qui débite 1,5 million de mètres cubes d'eau et qui n'a pas besoin de forage pour récupérer cette eau, puisque c'est de l'eau qui coule de manière
naturelle. Oui, c'est une résurgence naturelle.
C'est une résurgence, c'est une source naturelle qui donc aujourd'hui assure l'alimentation en eau potable de d'une population importante, plus de 30 000 habitants.
Oui, voilà. Donc une grande partie des Audois boit de l'eau de Termes.
Une grande partie des Audois boit de l'eau de Termes.
On peut dire comme ça. Alors Hervé Barrault, vous êtes donc conseiller départemental pour le canton de Termes. Hein, donc,
le canton des Corbières.
Le Moutoumé, comment il s'appelle?
Il s'appelle le canton des Corbières.
Le canton des Corbières, oui. Et alors, à ce titre, vous avez la responsabilité de ce qui s'appelle solidarité territoriale. Pouvez-vous expliciter un peu cette expression?
D'abord, peut-être sur le canton des Corbières, c'est un canton de 54 communes. C'est un canton extrêmement important et nous partageons la responsabilité avec ma collègue Cathy-Aline Fortuné, puisque désormais dans les
oui,
départements, nous avons des binômes, voilà, et donc un homme et une femme pour représenter un territoire. Là, la charge qui est la mienne au niveau, ou la responsabilité qui est la mienne au niveau du département, c'est effectivement celle des solidarités territoriales. C'est en fait la conduite de tout ce qui est les programmes d'investissement que nous réalisons ou que nous soutenons au travers, en particulier, d'un élément important que constitue ce qu'on appelle l'aide aux communes, c'est-à-dire les subventions que nous apportons aux communes et le suivi que nous accordons aux communes pour la réalisation des projets communaux.
Oui, ça, c'est pas seulement de l'aménagement du territoire.
C'est de l'aménagement du territoire.
Sous toutes ses formes, en fait.
Voilà, sous toutes ses formes. C'est de l'aménagement du territoire, sous toutes ses formes. À côté de cette part importante, il y a ce qu'on appelle les grands projets, c'est-à-dire, par exemple, le développement ou le déploiement du très haut débit. C'est, par exemple, tout à l'heure, je parlais des citadelles du Vertige et de la candidature UNESCO que je porte, enfin, que je suis. C'est le canal du Midi, c'est les lignes à grande vitesse, c'est le port de la Nouvelle, etc., etc.
Oui,
c'est tout cet ensemble, et j'ai aussi la responsabilité de l'eau. Le dossier de l'eau est un dossier extrêmement important. Alors, c'est à la fois l'eau potable, mais c'est aussi l'eau d'irrigation, qui est un élément important en termes de développement et de maintien de l'agriculture audoise.
Oui, et là, donc, on sait d'ailleurs que cette irrigation de l'agriculture, à part dans le Lauragais où c'est bien installé, mais vers chez nous, plus à l'est audois, c'est assez controversé. Ça ne fait pas l'unanimité, ben,
semble-t-il. C'est-à-dire que l'agriculture, enfin en tout cas la viticulture, n'apparaît pas comme une culture qui requiert beaucoup d'eau.
Et en tout oui, cas, c'est une des forces de la vigne, paraît-il.
C'est une des forces de la vigne que d'aller chercher l'eau naturellement à 20 mètres ou 25 mètres sous terre, de manière naturelle. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement controversé au regard des difficultés que l'on a d'approvisionnement en eau. Les périodes de sécheresse, et on est en période de sécheresse, font que l'eau devra faire l'objet, dans le cadre d'un traitement solidaire, devra faire l'objet de priorisation pour l'espèce humaine, pour le bétail, peut-être pour l'agriculture au sens de l'alimentation, c'est-à-dire le jardinage par exemple, les arbres fruitiers, et puis après, ce que l'on peut arroser. Et c'est vrai que sur cette question de l'eau, il y a un déséquilibre important entre le Lauragais qui a organisé le système depuis très longtemps, et d'autre partie, la vallée de l'Aude est encore assez bien dotée aujourd'hui en termes d'irrigation. En revanche, des zones comme les Corbières ou le Haut-Minervois sont dans des difficultés certaines.
Et alors, sur le problème de l'eau chez nos voisins catalans, donc dans les Pyrénées-Orientales, il y a eu tout récemment une manifestation, parce que alors, le fleuve Tête, qui fournit beaucoup d'eau pour l'irrigation, on prévoit de limiter cette quantité d'eau annuellement, ce qui évidemment soulève la colère de certains, enfin de beaucoup d'agriculteurs, en disant qu'ils vont être handicapés. Mais d'autres, au contraire, défendent cette notion de si on prend trop d'eau dans le fleuve, on en paiera les conséquences à un autre moment.
On ne peut pas prendre trop d'eau, en tout cas, ça ne serait pas raisonnable. Dans le département de l'Aude, je parle de ce que je connais, j'ai bien suivi ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales. Dans le département de l'Aude, il faut le dire, l'agriculture a fait d'importants efforts en matière d'économie d'eau, et en particulier de restauration d'un certain nombre d'installations, ce qui ne me semble pas être le cas des Pyrénées-Orientales. Et donc, le débit d'étiage, par exemple, ce qu'on appelle le débit réservé pour le département de l'Aude, au seuil de Moussoulins, c'est-à-dire juste à côté de Narbonne, est aujourd'hui pour nous de 4,4 mètres cubes seconde. C'est un débit important, mais qui est nécessaire, hein, si on veut que la vie continue.
Ça s'appelle le débit d'étiage, c'est
ça
le minimum.
Ça s'appelle le débit d'étiage ou le débit réservé. Voilà, le débit réservé, ça veut dire qu'on ne peut pas descendre en dessous. Et c'est de ça dont il s'agit dans la Tête, si j'ai bien compris, où le tribunal administratif vient de demander qu'il soit rehaussé par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, ce qui va amener probablement l'agriculture des Catalanes du Nord, à faire des efforts comme ceux qu'a réalisé l'agriculture audoise. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas utiliser de l'eau qu'on n'a pas. Et quand on arrive à des niveaux très bas, effectivement, il faut faire attention à la manière dont on pratique. C'est la raison pour laquelle la préfecture, le préfet, souhaite que l'on mette en place un groupement d'intérêt public pour justement traiter de cette question de l'eau et n'utiliser que l'eau dont on dispose.
Oui, qu'on arrive à une véritable gestion ou pilotage.
Il faut arriver à une véritable gestion de l'eau. On ne peut pas faire ça sans ou en tout cas développer des cultures qui nécessiteraient beaucoup d'eau sans qu'on ait l'eau dont on aurait besoin.
Voilà. On marque une première pause, Hervé Barrault. On se retrouve pour une seconde partie où on va évoquer, un peu plus, même beaucoup, votre présidence du Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. À tout de suite.